trouver sur le net.
Hello les blancos, c'est Coach Toto, le coach antifacho. Aujourd'hui, je vais vous donner votre première leçon de déracisme. Premièrement, être raciste n'est pas une fatalité. On peut s'en sortir, il suffit juste de faire les efforts. T'es prêt à faire les efforts avec moi? Alors on y va! Déjà mes blancos, si vous sentez que vous commencez à devenir raciste, ce qui est important, la première chose, c'est sortir dans la nature. S'oxygéner le cerveau, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas. Puisque rester toute la journée devant des chaînes d'infos, ça va vous faire accumuler ce qu'on appelle des stigmatotoxines. Par exemple, des programmes saturés en vitamine C News. Et ça, ça va vous donner des jugements superflus et des idées grasses. Autre chose qu'il est important que je vous dise, si vous vous sentez raciste, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes malheureusement de plus en plus. Et il y a une explication. Car nous, les Blancos, on a tous grandi dans un cadre raciste, que ce soit sociétal ou familial. Ou parfois, dans le pire des cas, les deux. Comme c'est arrivé à quelqu'un que je connais et qui vous parle en ce moment. Également, si vous êtes raciste, ne vous en faites pas, ce n'est pas irrémédiable. C'est irréfléchi, c'est irraisonnable, c'est irrespectueux, mais ce n'est pas irrémédiable. On peut s'en sortir. Il suffit juste de remplacer des mauvais réflexes par des bons réflexes. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans la première leçon, le fait divers. Là, imagine, tu es sur ton téléphone portable, tu regardes des actualités et tu tombes sur un fait divers. Tragique. Oh ! Et là, au lieu d'être consterné, triste ou en deuil, tu vas tout de suite être dans la colère. Et ta première question réflexe, ça va être de savoir de quelle origine est l'auteur de ce fait divers. Est-ce qu'il est d'origine étrangère? Est-ce qu'il vient de banlieue? Est-ce qu'il est musulman? Parfois même, si tu es vraiment touché, tu vas te demander les trois en même temps. Bon, bah ça, c'est un mauvais réflexe. Qui dit mauvais réflexe, dit mauvaise réflexion. Et oui, car si l'auteur du crime en question s'appelle Quentin, ton système émotionnel va bugger. Tout va s'arrêter. Fin de non-recevoir, tout va bien, il s'appelle Quentin. Mais s'il s'appelle Mohamed, là tu vas enclencher ce qu'on appelle le triptyque merdique, composé des trois I, immigration, islam, insécurité. Ce triptyque merdique est provoqué par la partie extrême droite de ton cerveau qui s'appelle, non pas le lobe frontal, mais le lobe front national. Pour remédier à ça, je te donne mon premier exercice. Tu te mets en face d'un mur ou d'un arbre, comme ceci, et tu vas frapper plusieurs fois la tête contre. Voilà. Pas besoin de taper trop fort, mais suffisamment fort quand même pour se remettre le cerveau en place et les idées bien droites. Pas bien droites, attention. Et tu verras qu'en répétant plusieurs fois ce type d'exercice, la prochaine fois que tu verras un fait divers, tu n'auras pas envie d'en vouloir à tout un groupe de personnes pour un fait qui est isolé. Et oui, car les auteurs de faits divers ne souffrent pas d'un problème culturel ou religieux, mais d'un problème neuropsychologique. Alors c'est vrai qu'au début, ça peut t'énerver parce que tu vas vite te rendre compte que tu n'as pas les connaissances neuropsychiatriques pour juger un tel type de personnage. Mais ensuite, tu me remercieras car tu vas récupérer ton summer brain, c'est-à-dire un cerveau prêt à affronter les discussions du barbecue cet été avec des arguments valables. Et à ce moment-là, tu penseras à moi et tu me remercieras. Voilà mes petits blancos, c'était Coach Toto, le coach antifacho. Pour un prochain tuto, on se retrouve bientôt tôt.
Micro ouvert.
Déborah Brosteau, bonjour, comment ça va?
Bonjour, ça va. Et toi?
Ça va bien, oui, oui, oui. On se rencontre voilà, pour ton livre « Les désirs guerriers de la modernité », c'est comme ça le titre. C'est quelles éditions d'ailleurs? La couleur des idées.
C'est une collection au Seuil.
Ah voilà. Oh, tu dis, redis-le dans...
Donc c'est...
Bon, on entend très bien, mais voilà.
C'est paru aux éditions du Seuil, dans la collection « La couleur des idées ».
Et quoi, c'est ton premier bouquin?
Ouais, c'est tiré de ma thèse de doctorat. D'ailleurs, j'ai fait à l'ULB.
Très bien. Et comment on pourrait commencer? Est-ce que tu as envie de te présenter? Tu as envie de te présenter comment?
Ben, en deux mots, donc moi je suis chercheuse en philosophie. Voilà, je travaille ici à Bruxelles. Je suis aussi éditrice dans une maison d'édition bruxelloise également qui s'appelle les éditions Météor. On a publié notamment des bouquins qui m'ont marqué, qui ont été importants aussi dans le travail que moi je fais. Voilà, j'édite aussi avec un collectif une revue qui s'appelle La Brèche, qui est une revue critique des milieux de l'enfermement en Belgique.
Et quoi, en quelques mots, hein, parce qu'évidemment... C'est quoi être chercheuse en philo, quoi?
Ah, c'est une bonne question. Bah, alors, En philosophie, ce qu'on peut dire, alors répondre très très simplement, nous, nos matériaux, puisque quand on fait de la recherche, c'est toujours la question aussi, c'est avec quoi on travaille, avec quels matériaux, ben c'est les textes, je dirais. Après, on peut discuter, en fait, c'est pas tout à fait vrai dans mon cas, ça peut aussi être les films, par exemple, mais en tout cas, on va dire classiquement, on travaille sur des textes de la tradition philosophique, mais j'ajouterais pas seulement. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec de la littérature, aussi des textes du style chronique, littéraire, etc. Voilà.
Imposé par l'histoire ou quoi, c'est des textes sacrés, c'est quoi, moi qui n'y connais absolument rien.
Non, ben alors quand tu fais des études de philosophie, on peut dire qu'il y a une sorte de canon un peu, comment dire, qui est vraiment la base de ce à côté de quoi les étudiants vont pas passer. Donc là, tu as des grandes figures de philosophes, Platon, Descartes, Kant, qui tu veux, okay. Nietzsche. Ensuite, évidemment, la philosophie, ça se réduit pas à un canon classique. En fait, je pense qu'aussi l'histoire de la philosophie, ça a été beaucoup de remettre en question, évidemment, ce qui était reconnu comme le canon.
Comme évident, quoi, c'est ça.
Voilà, et aussi, moi, je travaille beaucoup sur des auteurs et avec des auteurs du XXe siècle, notamment allemands, des auteurs comme Walter Benjamin, de l'époque de l'entre-deux-guerres, ça, on en reparlera peut-être, qui, justement, se sont demandé comment pratiquer de la philosophie en se connectant beaucoup plus, on pourrait dire, aux réalités matérielles d'une époque, mais aussi aux réalités sensibles, esthétiques. Et donc, comment est-ce que tout ça, c'est les matérialités, les sensations, l'historicité aussi des situations du présent vont entrer dans la philosophie. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup et qui sont évidemment hyper importantes quand on travaille sur la guerre, comme ça a été mon cas pour ce livre.
Et donc, ça, la guerre, c'est quelque chose qui t'intéresse, quoi.
Au tout départ, enfin tout début, avant de commencer ma thèse, disons un fil qui m'a toujours guidée, c'est des questions qui sont liées à la violence en fait, question de pouvoir, qu'est-ce que ça, voilà, quelles sont les différentes formes que prend la violence, que ça veut dire de résister à une violence, quels sont aussi les modes peu évident sur lesquels la violence s'exerce. Il n'y a pas juste la violence qu'on peut voir, observer directement, violence physique classique, mais d'autres formes, comment on décrit ça et qu'est-ce que ça veut dire que d'y faire face. La guerre, en fait, paradoxalement, j'ai commencé à m'y intéresser justement parce que c'était quelque chose de très abstrait pour moi, de très lointain. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est... qui aurait une culture même des jeux vidéo de guerre ou qui aurait été amené ou qui aurait vécu, enfin, certainement pas, j'ai pas du tout vécu la guerre.
Ou tes parents, ou tes grands-parents.
Alors une fois qu'on creuse, on se rend compte qu'on a en fait toutes des histoires familiales qui à un moment ou un autre croisent les guerres du passé, ou en tout cas du passé, et je fais pas exception, mais effectivement c'est pas passé par là, par une obsession familiale ou quelque chose comme ça. J'ai plutôt constaté qu'en fait, justement, je m'étais jamais vraiment posé la question de la place de la guerre dans notre monde à nous aussi, en fait. Ça m'était toujours apparu comme quelque chose de très lointain.
Tu veux dire dans notre société, quoi.
Dans notre société à nous. Voilà, j'ai commencé à travailler sur ce projet en 2016-2017. Donc pas du tout dans la séquence dans laquelle on est maintenant où on nous dit que le temps de la paix européenne est en train d'être derrière nous, qu'on doit, enfin voilà, cette espèce de retour d'un esprit guerrier et aussi de la question de la guerre comme étant une question fondamentale pour notre présent. On n'était pas là-dedans quand j'ai commencé à travailler, au contraire on n'en parlait pas tellement à l'exception des attentats à Bruxelles, à Paris. Donc ça, évidemment, ça a capté beaucoup l'attention médiatique et politique, mais par ailleurs, clairement, ça ne faisait pas les unes des journaux. Et ce qui m'a interpellée, et ça fait partie directement de mon propos aussi dans ce livre, c'était de dire comment ça se fait que ça me paraît si lointain, alors qu'en même temps, on sait bien que nos réalités sont aussi liées, en fait, à une série de guerres en cours, que les armées européennes sont dans des coalitions. Il y a eu Il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, mais il y a aussi le Mali. Enfin, il y avait plein de conflits, de guerres qui impliquent nos États, nos territoires, on pourrait dire aussi les grands ensembles dans lesquels nos États s'inscrivent.
Oui, mais c'est loin de nous.
Voilà, et en même temps, c'est loin de nous. Et je me suis dit, c'est quoi ce rapport-là à la violence ? Où on est liés en même temps, ça nous paraît si lointain.
Du coup, mais moi, j'avais envie de comprendre comment t'as fait le lien, tu vois ? Parce qu'il faut, déjà... Ouais, il y a des gens comme ça que j'ai déjà pu interviewer qui disent, tu vois, qui disaient, moi j'étais choquée, même sans avoir rien lu de spécial, mais il faut aussi ne pas avoir peur de se poser des questions, tu vois. L'Europe, elle est soi-disant en paix, tu vois, et l'Europe, elle a été créée pour la paix, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est pas vrai. Et c'est des gens qui des fois représentent des institutions balèzes et tout, et t'as envie de les secouer, tu vois. Et c'est quoi ce discours-là qu'on entend, même des fois de gens haut placés, qui sont censés savoir qu'en fait, mais non. Tu vois, je me demandais, quel a été ton lien, quoi. J'imagine les lectures, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué.
Alors bien sûr, les lectures, et en fait quand on commence à s'intéresser par exemple aux auteurs des coloniaux, enfin tu me faisais allusion en off tout à l'heure à Ourea Boutelja par exemple, bah, c'est des auteurs pour qui en fait ce qui moi n'était pas évident est totalement évident par l'expérience, qu'en fait le territoire européen n'est pas un territoire de paix, mais qu'il externalise aussi sa violence. Donc il y a plein d'auteurs pour qui c'est une évidence et qui vont amener ces questions aussi, bien sûr, dans l'espace public, mais aussi dans les espaces intellectuels. Et après, je pense que malgré tout, en fait, c'est ça aussi qui m'a intriguée, c'est qu'on ne le sait pas et en même temps, on le sait très bien. Notamment par le fait qu'il y a des réfugiés de guerre qui arrivent en Europe tout le temps. Voilà, il y a eu la Syrie. Personne n'est passé à côté de cette question, simplement de l'arrivée, de l'accueil, du non-accueil, évidemment, surtout des rescapés, en fait, des guerres. Et c'est là qu'on voit que c'est pas tellement que les guerres seraient totalement absente de nos consciences ou qu'on n'aurait pas du tout accès. Enfin, voilà, on est quand même dans un monde où l'info circule beaucoup, où il y a aussi les images qui circulent, où il y a aussi beaucoup de collectifs qui font le travail, notamment sur les questions d'armement, de regarder où... Enfin là, on parle de production d'armement en Belgique, en France, mais de regarder où vont ces armes. Donc en fait, on n'est pas dans des sociétés où on n'aurait pas d'informations, on n'aurait pas d'accès. Et pourtant, on parvient quand même à vivre dans cette espèce de... Alors, maintenant, c'est peut-être en train de changer, mais...
De bulle en paix. Voilà. Nous...
Et c'est là que ça devient une question où un peu plus... Où ça peut être intéressant d'y aller un peu avec les outils de la philosophie, justement parce que on voit que le problème ne se réduit pas à donner les informations, à dire ben non, regardez, il y a ceci, il y a cela, regardez les réfugiés, regardez. Comme si une fois qu'on a donné les informations, regardez l'économie de l'armement, qu'est-ce que ça entraîne comme violence, une fois qu'on a donné les informations, c'est bon, tout le monde a compris. En fait, on voit bien que c'est pas comme ça, et qu'il y a une manière de se tenir à distance qui est en fait très active, quoi.
Une manière de se tenir à distance, là, c'est pas clair, quoi. De se tenir à distance volontaire, qu'est-ce que tu veux dire ?
Peut-être pour expliquer ça, je peux revenir sur un passage que j'aime beaucoup d'une philosophe qui s'appelle Simone Weil, que je cite dans le livre, qui est donc une philosophe française qui a écrit pacifiste, juive, et qui a pris plein de notes. Ouais, qui prend plein de notes au tout début de la... Enfin, tout le temps, mais ici, c'est des notes qui datent du tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ces notes, à un moment, elle parle de... Elle parle de nouveau Gigès. Alors, peut-être je peux raconter un peu ce que c'est. Elle relie un vieux mythe de la philosophie, justement, qui est le mythe de l'anneau de Gigès, qui est un...
Jamais
mythe...
entendu parler.
Alors, je vais te le raconter. C'est un mythe qui est raconté par Platon, donc philosophe grec, dans un de ses plus grands livres qui s'appelle La République. Et en gros, Gigès, c'est un berger qui trouve un anneau magique. Qui a un anneau, quand il le porte, il se rend compte qu'il devient invisible. Mm-hmm. Ça, c'est, donc, c'est le mythe de l'anneau de Gigès. Mm-hmm. Et une fois qu'il est invisible, ben, il se dit, ben, je peux faire ce que je veux, j'aurai pas de compte à rendre. Donc il va, il va tuer le roi, épouser sa femme, prendre le trône. Enfin voilà, donc il y a une conquête du pouvoir avec cette espèce d'immunité que lui confère l'invisibilité. Et Simone Veil, elle dit, en fait, on a affaire aujourd'hui à des nouveaux Gigès où ce qui est invisible, c'est plus celui qui porte l'anneau magique, c'est l'anneau lui-même. C'est l'anneau qui permet de commettre les crimes qui devient invisible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les liens entre nous et la violence qu'on exerce ou la violence à laquelle on est lié, ces liens-là deviennent insaisissables, ils deviennent invisibles. Et Simone Veil, elle en parle en disant, il y a une sorte d'art de mettre à part, qui est le propre de ces nouveaux Gigès. Moi, je décris en disant c'est des Gigès modernes, un art de mettre à part, de faire comme si on n'était pas lié à des violences auxquelles on est pourtant lié. Donc là, il y a quelque chose qui est qui peut passer par des choses très matérielles, hein, le fait de rendre insaisissable nos liens à la violence, mais qui passe aussi, on pourrait dire, par des opérations psychiques. Il y a une sorte d'entêtement, en fait, dans le fait de mettre à part et de ne pas faire le lien.
J'entends bien, et ben là on rentre, c'est des sujets, c'est les désirs guerriers de la modernité, quoi. On démarre hein, comme ça de but en blanc, mais moi ça va, tu t'y retrouves bien.
Moi ça va.
Parce que du coup, y avait l'idée de parler aussi de, ce n'est pas nous qui souhaitons la guerre, quoi. Parce que c'est de ça, je sais pas si c'est juste ce que je dis avec ce qu'on parle de l'anneau. Et de dire aussi, ce n'est pas nous qui souhaitons la guerre, parce que cette invisibilisation, c'est pas les gens qui la veulent. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, hein. On réfléchit ensemble. J'ai l'impression qu'on nous l'impose aussi, on nous met dans des vies qui sont complètement dénuées de sens, dénuées de liens. Et donc, de faire le lien avec le réfugié qui vit la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Avec les armes qui sont produites ici en Belgique, ben, c'est pas si évident que ça, quoi. Il faut avoir du temps, se poser des questions, peut-être lire des livres, et peut-être tout le monde ne prend pas ce temps, tout le monde n'a pas le temps. Tu vois, on n'est pas tous logés à la même enseigne, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, je suis d'accord. Et pourtant, effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est autre chose que de faire une analyse de, par exemple, les discours des dirigeants ou des politiques des gouvernements. Effectivement, ce que j'ai voulu interroger, c'est, je vais le dire d'abord de manière beaucoup trop générale, parce que tu as raison tout de suite de nuancer et tout, évidemment. Mais en tout cas, le type de questionnement qui m'a intéressé, c'est quoi nos rapports aux guerres, et comment, et plus précisément pas n'importe quel type de rapport. Donc c'était pas d'abord ce qui est de l'ordre du refus de la guerre, c'était plutôt comment est-ce que nous-mêmes on peut être pris parfois dans des dynamiques guerrières. Voilà. Alors t'as raison de dire les recrutements guerriers, c'est aussi quelque chose qui nous arrive. C'est pas quelque chose auquel on serait, on peut pas dire ce sont les gens qui veulent la guerre. Enfin, ce serait effectivement un peu, complètement imprécis de dire ça. Et puis on voit bien que c'est pas si vrai, enfin que c'est plus compliqué, etc. Et pourtant, je pense que on peut pas non plus faire comme si les dynamiques guerrières, c'était quelque chose qui se passait complètement en dehors de nous. Et là, j'en reviens justement à ce que je racontais juste avant. Une des raisons pour laquelle j'ai pas voulu faire une lecture qui consistera seulement à dénoncer, en gros, des agirs guerriers qui seraient des agirs d'un pouvoir qui...
d'un pouvoir d'en haut vers le bas.
Et voilà, c'est ça, sur lequel on n'aurait pas prise. C'est justement parce que il me semble que quelque chose auquel on a affaire, une des difficultés, et je pense que les mouvements pour la Palestine notamment résistent très bien à ces difficultés, hein, c'est que ça fait des décennies que ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos rapports à la violence sont devenus assez indirects. Il y a beaucoup de médiation. Il y a, ben, on n'a plus des armées de conscription. Ici en Europe, il n'y a plus non plus, et je ne le déplore pas du tout, hein, au contraire, hein, voilà, il n'y a plus de service militaire. Il y a une sorte de... moi, je parle d'un pacte tacite qui consiste un peu à dire, en fait, les guerres peuvent continuer à avoir lieu du moment que la réalité de ces guerres ne nous affecte pas, nous. Et donc, cette impression que les guerres, c'est pas nous qui les faisons, c'est pas nous qui avons prise dessus, c'est pas notre responsabilité, pour moi, ça fait un peu partie du type de violence dans lesquelles on se trouve, et c'est de cela aussi que je voudrais rendre compte. Et alors, c'est quoi l'antidote à ça ? C'est pas la culpabilité, effectivement. C'est pas de dire, bah oui, c'est nous, c'est ma faute, c'est moi qui... Voilà, donc c'est pas de mettre tout l'agir ou tout le pouvoir sur nous, c'est pas ça. Sur nous les gens, voilà. Alors ensuite, je suis pas du tout sociologue, donc je serais bien en peine, moi, de te dire, alors, dans la population, actuellement, il y a X% de gens qui... Moi, je fais pas du tout ce travail-là. Donc je disais quoi ? Oui, donc c'est pas prendre toute la responsabilité sur soi, quelque chose comme ça, mais c'est quand même avoir un rapport aux situations de guerre qu'on peut appeler, c'est un terme qui est utilisé par une philosophe bruxelloise qui s'appelle Isabelle Stengers, qui s'appelle la non-innocence. Donc c'est pas la culpabilité, mais c'est la non-innocence. Ça veut dire porter un regard sur des situations de violence qui nous engagent. Qui nous engage à une posture de responsabilité par rapport à ces situations, qui consiste pas juste à se mettre en dehors et à dire en fait
ça ne nous regarde pas,
de toute façon on peut rien y faire, il faut bien, c'est ainsi, c'est eux et pas moi. Enfin voilà, donc c'est se dire comment est-ce que j'arrive à porter un regard sur la situation qui en même temps nous rend responsables. Et c'est ça que je disais que les mouvements pour la Palestine en fait n'arrêtent pas de faire ça, hein, en disant voilà, on va regarder où est-ce qu'on a prise en fait sur la violence. Qu'est-ce qui nourrit le génocide en cours à Gaza, au niveau de nos économies, au niveau de nos partenariats institutionnels, au niveau...
Ils sont dans la lutte et dans le combat, c'est ça que tu veux dire ?
Dans la lutte et dans le combat, et avec un... Enfin, ça se joue à plein de niveaux, mais ce à quoi on assiste maintenant, c'est pas juste qu'on va dans la rue et qu'on dit on est contre le génocide, c'est aussi qu'on regarde très précisément et qu'on dit « Attention, là, ici, il y a une complicité. Là, ici, dans notre institution, il y a quelque chose qu'on pourrait interrompre. Il y a un partenariat qu'on peut interrompre ici. Il y a tel produit qu'il faut boycotter. » Donc, on cartographie réellement, justement, quels sont les liens qu'on entretient. Encore une fois, c'est pas qu'on a, nous, décidé à notre échelle d'instaurer tel partenariat, mais on est quand même pris dedans, quoi. Donc, où est-ce qu'on a pris ? Quels sont les liens ? Comment on les cartographie ? Justement, là où, comme tu disais tout à l'heure, ça coule pas de source et ça peut être très insaisissable, quoi. Et donc, et ça, je dirais, c'est une pratique de responsabilité, c'est une pratique de non-innocence. C'est pas juste dénoncer une violence, c'est pas juste dénoncer le gouvernement israélien Netanyahou, c'est se demander où est-ce qu'on a prise ici, et donc aussi par où passent les complicités.
Se mettre en action, quoi, quelque part. Arrêter cette innocence à la noix, arrêter de se dire qu'on n'a rien à voir, de pas regarder, mais c'est justement ça, le défi, quoi. C'est, parce qu'alors, du coup... C'est la guerre à Gaza, mais c'est aussi plein d'autres sujets. Tu vois, c'est la bouffe qu'on mange, c'est la nature qu'on dégomme. Tu vois ce que je veux dire aussi ? Ça veut dire qu'on demande aux gens. Alors, en effet, les gens, c'est très vague. Hein. On ne sait pas très bien qui sont ces gens. Mais c'est de retrouver une espèce de conscience aussi de manière d'être sur la terre, quoi. Je ne sais pas si tu me suis, hein.
Ouais, bah, je pense qu'il y a plein de chantiers à plein de niveaux qui sont...
Parce que là, précisément, on parle de la guerre.
Ouais. Mais c'est pas sans lien, évidemment, avec des constats qu'on pouvoir poser des écologistes. Et c'est pas non plus étonnant. Mais après, je crois que chaque type de violence implique qu'on y réponde sur un certain mode, quoi. Enfin, qu'il y a pas de... Voilà, je suis pas en train de proposer... Enfin, de toute façon, je propose pas de recette. Là, je parlais des mouvements pour la Palestine, justement, parce qu'ils sont là, quelque part. Donc, c'est autre chose que de dire, voilà ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, en fait, là...
Ils font,
ouais, c'est ça.
Ils n'ont pas lâché l'affaire.
Voilà, et c'est là aussi qu'on voit... Enfin, moi, pour ma génération, c'est un événement, en fait, ces mouvements. parce que
oui, vas-y.
Voilà, parce que quand j'ai commencé à travailler sur cette question de nos rapports à la guerre, on était plutôt dans un moment où ben il y avait pas tellement de mouvements anti-guerre, anti-impérialiste. Il y avait bien sûr des collectifs, mais ça restait très minoritaire. Là, il y a eu quand même un basculement d'abord autour, enfin face à la Palestine, et puis maintenant aussi par rapport aux questions de réarmement. On voit que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui renoue aussi avec toute une histoire des mobilisations anti-guerre, anti-impérialistes, aussi en Europe, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on voit aussi dans le cas de la Palestine, c'est que, on voit aussi à quel point c'est la capacité à maintenir les complicités, à continuer à jouer cet air de l'innocence, etc. On voit à quel point c'est redoutable aussi. Parce que là, on ne pourra pas dire que on n'aura pas prévenu. On ne pourra pas dire que les gens ne seront pas descendus dans la rue. On ne pourra pas dire que les campus n'auront pas été occupés. Enfin, on a vraiment une situation où il y a un travail de fourmi qui se mène à tout plein de niveaux de la société. Et pourtant, on voit que ça ne suffit pas, quoi. Et donc, c'est là aussi qu'on voit à quel point entêtement aussi de...
Il faut... Oui, entêtement de la part de ce système, quoi.
Oui, c'est ça, entêtement de la violence, quoi. Entêtement terrible de la violence. Ouais.
Et pour toi, maintenant, tu ne seras peut-être pas répondre, hein, mais comment ça se fait que ça se fissure quand même un peu, là? Qu'est-ce qui se passe dans... Tu sais, toi?
Je pense que il faudrait demander à des gens qui ont vraiment travaillé sur... aussi l'histoire de cette lutte-ci précisément, parce que la lutte pour la libération de la Palestine, c'est une lutte qui a une histoire ancienne, et aussi en Europe, quoi. Enfin, moi, j'étais frappée dans les manifs de voir le nombre de personnes âgées qui sont là. Vraiment, et c'est là qu'on se rend compte que c'est une lutte qui est portée de longue date. Donc je pense que il y a ça aussi, qu'il y a déjà une tradition. Alors, de la gauche, d'une certaine gauche blanche, c'est pas nouveau, en fait. On découvre pas la violence coloniale en Palestine en octobre 2023.
Pourquoi tu parles de la gauche blanche, là, je comprends pas.
En fait, j'allais énumérer. Dire qu'en fait, il y a plein de gens ici qui sont... qui étaient déjà mobilisés... par rapport à la Palestine. Il y a la diaspora palestinienne. Il y a les communautés arabo-musulmanes qui ont aussi un attachement à cette question-là et qui la relient aussi à leur propre histoire. Il y a des collectifs juifs qui sont soit antisionistes. Donc je pense qu'il y a...
Oui, il y a tout ça, mais il y a aussi une espèce de masse de gens qui se réveillent aussi. On a l'impression que... Il y a des choses qui se délitent comme ça, tu vois. Genre, maintenant, ça suffit, on arrête de nous raconter des conneries, quoi. Tu vois, il y a un truc comme si c'était le moment venu, quoi. C'est bon, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui luttent, mais qu'il y a aussi quelque chose qui s'effondre un peu au niveau de ces institutions, de ce cirque, en fait, tu vois. Et il est costaud, hein. Moi, je crois pas qu'il va s'effondrer comme ça, mais... Il y a quand même dans l'air comme ça quelque chose d'assez intéressant, hein, de résistance, quoi.
J'ai des étudiants et aussi des amis qui parlent de... Ils utilisent l'expression « la preuve par la Palestine ». Voilà, tu l'as déjà entendu. qui veut dire, en gros, là, ce dont on est témoin là depuis bientôt 2 ans, c'est vraiment le truc où, comme tu dis, en fait, toutes les prétentions morales du progressisme occidental, etc., s'effondrent, en fait. Ces discours, comme tu dirais, ils sont totalement fissurés. En fait, ils l'étaient déjà tout le temps, mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose où
fort, quoi.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a, il y a une fameuse fissure.
Moi, j'avais aussi envie de lire une petite partie au tout début de ton livre. Hein. Ça dit ceci, donc c'est toi qui l'écris. Hein. « Nous ne vivons pas la guerre, mais nous ne sommes pas en paix. Nos États, nos économies, nos territoires, nos histoires sont reliés à de nombreuses guerres en cours et nos affects se retrouvent activement recrutés dans leur dynamique et leur violence. Parmi la multitude d'affects qui peuplent les temps de guerre, la multiplicité des tristesses, des peurs, des haines, des deuils, des effrois, des solidarités, des espoirs, des résistances ou encore des refus de la guerre, ceux dont ce livre traite relèvent plus particulièrement de ce que j'appellerais des désirs guerriers. J'entends par là des affects qui nous nouent activement à la guerre, qui font de la guerre, ou plutôt de certaines manières d'être en guerre, un prisme qui structure nos perceptions et un moteur de nos désirs. Les affects guerriers sont ceux qui produisent de l'adhésion aux dynamiques de la guerre, parfois sur des modes explicites et volontaristes, parfois sur des modes plus ténus, plus détournés, pas forcément revendiqués, mais néanmoins agissants. De tels affects ont une histoire. Voilà, ça c'est un petit bout du début de ton livre. T'as envie de dire quelque chose là-dessus ?
Peut-être juste insister sur peut-être deux choses. D'abord, le fait que les affects ont une histoire, parce que c'est pas forcément un truc évident, même si maintenant il y a beaucoup d'historiens qui font justement ce qu'ils appellent des histoires des sensibilités ou des histoires des émotions. Donc, mais c'est pas pour autant une idée complètement évidente. Donc on pourrait se dire, ben, en fait, voilà, il y a aussi des sortes d'intemporels, et justement les émotions seraient quelque chose d'un peu intemporel. Tout le temps il y a eu des guerres et donc des expériences qui seraient historiques, ou bien un truc qu'on me répond souvent. Puisque le titre du livre, c'est « Les désirs guerriers de la modernité », on me dit « Ouais, mais attends, il y a toujours eu des désirs guerriers. Ça n'a rien de spécifiquement moderne. Les humains ont toujours voulu faire la guerre, ce genre de choses. » Et là, c'est vraiment, une revendication théorique, mais aussi politique forte de dire « Ben non. » Peut-être qu'il y a toujours eu des formes de désir guerrier. Enfin, voilà, je ne dis pas que c'est au moment de la modernité que, pour la première fois, il y a des passions guerrières. Certainement pas. Il y a des passions guerrières antiques, non modernes, etc. Mais qu'il y a un enjeu à voir comment est-ce qu'un certain type de passion se forme à travers une histoire, se met à façonner aussi nos manières d'être, enfin qu'on est façonné en fait dans ce qu'on est hein, par des passions qui ne viennent pas de nulle part ou sont pas des espèces de données anthropologiques générales, voilà, c'est l'humain, c'est comme ça, mais ont une certaine histoire.
Et je dis, une construction quoi du coup.
Ouais, une construction. Et je dis c'est un point politique important parce que du coup ça veut dire que ben ces passions, cette histoire, elle peut encore se transformer et qu'il y a un enjeu à la transformer. Évidemment, c'est une question qui est beaucoup posée par les féministes, par exemple, hein, de dire en fait les sensibilités qui ont façonné les masculinités majoritaires, tout ce qui est de l'ordre aussi des violences sexistes, c'est pas le fait, voilà, c'est pas les hormones, etc. C'est toute une histoire des corps, en fait, c'est toute une histoire des manières de se vivre soi-même, de vivre le rapport à l'autre, de faire des catégories entre, voilà, séparer déjà, c'était qu'il y a les hommes et puis il y a les femmes, enfin voilà, donc c'est des catégories, la manière dont on comprend les choses, mais c'est aussi la manière dont on les perçoit, dont on les sent, donc tout ça, ça a une histoire, et c'est là aussi qu'il faut travailler si on veut, justement là où il y a des poisons, en fait, là où il y a des poisons politiques, c'est aussi à ce niveau des sensibilités qu'il faut aller travailler. Donc je dirais que ça, c'est vraiment un fil qui est fondamental pour moi.
Mais quand tu parles aussi de modernité, moi j'ai envie de dire, bon, la guerre, ok, ça a toujours, on n'en sait rien, mais c'est pas nouveau, quoi, on va dire, hein, que les batailles, le fait de pas être même d'accord avec quelqu'un, voilà, comment on règle ça, quoi, on se tape sur la gueule, ou bien on négocie, ou bien, mais que c'est aussi différent, une fois que la modernité vient avec l'industrialisation, de faire la guerre à échelle énorme avec des outils qui peuvent dégommer je sais pas combien de milliers de personnes, enfin Je pense à la bombe atomique Hiroshima, tu vois ce que je veux dire? Et de se faire la guerre à coups de bâton et de arc à flèche, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a déjà, moi, déjà là, c'est une grosse différence aussi de donner les moyens et de faire qu'un État ait les moyens parce qu'il a mis de l'argent pour faire de la recherche, pour dégommer des pays entiers et de la bataille entre deux tribus. Tu me suis ou tu me suis pas?
Bien sûr, non, mais alors évidemment, il y a déjà l'histoire des. Enfin, il faut évidemment commencer par faire l'histoire des manières dont on fait la guerre, c'est ça que tu dis, quoi. Et que si
mais
on.
C'est pas la même échelle, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas la même échelle, et c'est aussi. Bon, après, à l'intérieur de la modernité, il y aura aussi plein de différentes manières de faire la guerre, encore une fois, mais en tout cas, pas les mêmes échelles et aussi pas les mêmes manières d'exercer la violence. Par exemple, si on reste même à l'intérieur de la modernité, c'est pas la même chose des armées qui s'affrontent et une armée qui mène une guerre totale contre une population. Voilà, je veux dire. Donc évidemment, il y a la question des manières de faire la guerre qui a son histoire aussi. Et à cela se greffe, donc ça revient... point dont je parlais, enfin le point que j'évoquais, à cela se greffe aussi une histoire des manières de vivre la guerre et aussi des manières de la fantasmer. Ça, c'est quelque chose que je trouvais important aussi. Encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on n'était pas dans ce temps présent qui n'est plus seulement le temps présent qui commence à durer, hein, mais de la guerre en Ukraine et puis le temps présent du réarmement, etc. On était dans un moment, comme je disais tantôt, une sorte de violence qui est mise à distance. Et en même temps, on ne pouvait pas dire que c'était une société où il n'y aurait pas de fantasmes guerriers. Pour reprendre le passage que tu disais tout à l'heure, on ne vit pas directement la guerre et pourtant nous ne sommes pas en paix. On ne vit pas la guerre, c'est pas pour autant qu'on ne la fantasme pas, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas dans les horizons d'attente. Et ces fantasmes-là aussi, ils ont une histoire. Ouais.
C'est ça que tu veux dire, quoi. Que ça... Ouais, c'est... Oui, oui. C'est une construction, tout ça, donc ça, c'est ça.
Oui, une construction. quand on dit, par exemple, bon, peut-être pour être un peu plus concrète, hein, donc on a parlé de la... cette construction de l'innocence, hein, l'impression d'être innocent, et que c'est une certaine manière, ça peut être une certaine manière d'être en guerre, en fait. Et même, on peut même mener des guerres au nom de sa propre innocence, au nom de la paix qu'on incarnerait. Enfin, voilà, c'est toute l'histoire des guerres coloniales, mais aussi des guerres contre le terrorisme.
Hein. Genre, on amène la démocratie, ouais. Pour faire la paix, faisons la guerre.
Voilà, donc ça, c'est une construction, mais je parle aussi beaucoup, quand je parlais des fantasmes guerriers, de ce qui serait plutôt de l'ordre de l'idée que la guerre, c'est quelque chose qui revitalise.
Oui, pour ça, il est incroyable, comment il s'appelle celui-là encore, Ernest, comment ? Ernst, waouh, quoi, quel bonhomme. Il est horrible. T'as envie d'en parler un peu, ou bien tu laisses les gens découvrir, le découvrir dans ton livre? Parce que il y a 35 minutes, ça va vite le temps, hein, tu vois. Il reste quoi? Allez, 20 minutes, si jamais t'as envie d'aborder un truc bien spécial de ton bouquin que t'as envie de partager, ou bien on peut, voilà.
Moi, je te laisse me guider, moi c'est bien. On va... Mais donc, je peux en dire quelques mots, surtout que...
Enfin... Non, mais lui, il est horrible, quoi.
Alors... Il est horrible. Et...
Tu l'as découvert comment? Ah oui, je crois que c'est quelqu'un qui t'a conseillé de le lire, non?
Ouais. Donc, attends, peut-être je dis d'abord qui c'est. Ernst Jünger, donc c'est un écrivain.
Un sale type.
Non, mais attends, justement, si on le décrit comme ça, alors le problème est réglé, j'ai envie de dire. Il n'y a plus besoin tellement de lui consacrer un chapitre.
Alors, dis-nous pourquoi c'est pas un sale type.
Non, j'ai pas dit que c'était pas un sale type. Alors, donc,
parce que moi, j'ai lu le livre, dommage que... Voilà,
Ernst Jünger, c'est un écrivain... Non, c'est un héros de la Première Guerre mondiale, allemand,
Okay. Parce qu'il a cartonné voilà. Militairement, quoi.
Voilà, on va peut-être pas faire le détail de ses faits d'armes, mais effectivement, nombreux faits d'armes. Donc il a les plus grands honneurs après la guerre, et surtout il devient célèbre parce qu'il commence à écrire, il va écrire des romans de guerre, donc basés sur son expérience de la Première Guerre mondiale. Et sa particularité, c'est que c'est pas juste un écrivain et un héros de guerre, c'est aussi quelqu'un qui va énormément se politiser dans les années 20 en Allemagne, et qui va être au cœur de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, qui est, j'ai envie de dire, c'est un peu la droite en l'extrême droite anti-système de l'époque, et qui a, bon, on va pas rentrer ici dans les détails de comment ça influence le nazisme, mais bon voilà, donc c'est bien une époque où ça commence à pas aller bien en Allemagne, et Jünger est important à ce moment-là. Il va pas devenir nazi, mais il va quand même en inspirer quelques-uns, etc. Et ben, alors Jünger, il parle effectivement, c'est un peu un cas exemplaire si on veut parler des désirs guerriers, parce que c'est quelqu'un qui est, donc il écrit sur son expérience de la Première Guerre mondiale, mais justement tout son enjeu, c'est de montrer à quel point cette expérience de la guerre, c'était l'expérience la plus la plus importante qui soit, voilà, à titre intime, mais aussi à l'échelle d'une nation, à l'échelle de la civilisation. Voilà, on a vraiment cette idée que la guerre, c'est le lieu où... je parlais de revitalisation tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, chez Jünger. Et c'est des descriptions très, très précises et aussi très réussies. Donc c'est pour ça que je disais, oui, un sale type... qui en même temps, a un rapport désirant à la guerre, mais qui va produire énormément de fascination. Moi, c'est pour ça, tu me disais, comment je suis tombée sur lui? Bon, déjà parce qu'il est connu, hein, j'ai pas été chercher très loin pour le coup, mais aussi parce que c'est un auteur, si on pourrait dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce vieil Allemand, la Première Guerre mondiale, enfin voilà. Mais en fait, c'est un auteur qui a encore du succès jusqu'à aujourd'hui. Quoi. Il est considéré comme un grand écrivain, qui l'est aussi par ailleurs. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de se dire comment ça se fait que justement ces textes qui ont été écrits il y a, pour certains, maintenant un siècle... Dans les années, tu vois, c'était les années 20... qui ont été écrits il y a un siècle, ces textes qui étaient écrits par un type qui défendait ce qu'il appelait la mobilisation totale. Donc c'est l'idée que, en gros, la guerre et aussi la perspective de la guerre à venir, ça devient le moteur des nations. Voilà, pour l'économie, la guerre devient une sorte de moteur de la mise en mouvement de la vie des nations. Comment est-ce que ces textes viennent se brancher à des sensibilités contemporaines qui voit en fait une sorte d'attrait. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'était de prendre ces attraits au sérieux, de se dire, tiens, justement, et c'est pour ça que le terme de construction, il est juste, de dire en fait, ces désirs, ils sont construits. Chez Jünger, on le voit bien, parce que Jünger, il vit, pendant les 4 années de guerre, il tient un journal de guerre. Et quand on lit ce journal, alors on voit qu'il est très jeune, on voit qu'il est fasciné, puis c'est un engagé volontaire, donc il était très motivé dès le départ, etc. Mais malgré tout, c'est tout à fait différent de ce qu'il va écrire ensuite, où il va se mettre à écrire des textes, mais à reprendre à chaque fois son récit, à le réécrire, et à chaque fois ça devient plus mystique, plus intense, plus fascinant, plus esthétique. Donc on voit vraiment cette production en fait du désir, qui est pas juste un truc qui sort, un truc naturel qui sort du corps biologique, mais qui a aussi une écriture, qui se trouve un langage. Donc on voit que c'est construit, et en même temps, pour comprendre pourquoi c'est quand même du désir, on ne peut pas juste en faire la déconstruction, par exemple montrer que c'est une invention. Ah voilà, on voit bien que c'est pas vraiment ça, ces descriptions, on voit bien que c'est du fantasme, etc. Si on fait ça, on peut dire ou montrer pourquoi c'est violent, à la fin on a compris pourquoi c'était un sale type. Mais on n'a pas encore compris pourquoi est-ce qu'il suscitait autant d'attrait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
Et pourquoi il suscite autant d'attrait? Parce qu'il sait bien écrire, parce qu'il baratine bien, parce qu'il enrobe bien. Parce qu'on est d'accord que le type, il jubile sur la destruction, quoi. Moi, j'ai des passages du livre qui sont incroyables, quoi. il ramène ça, c'est de la dinguerie, quoi. Moi, je résume l'idée, mais c'est la destruction, il en fait quelque chose de magnifique, quoi. Genre, nos vies sont tristes, mais quand on est sous adrénaline, en pleine guerre, enfin, tu vois, on devient lumineux, quoi, tu vois. Enfin, il renverse les choses, selon moi, tu vois. Dans la destruction, il jubile, quoi, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses.
Si, si. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu. Le problème est un peu plus. Comment dire. Est un peu plus lourd que juste il enrobe bien les choses. Parce que, en fait, comment ça se fait que ça, on peut trouver ça fascinant, tu vois? C'est ça la question que je me pose, tu vois. C'est comment est-ce que. Il arrive, effectivement, à te décrire des paysages. Voilà, c'est les No Man's Land de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est des paysages de mort, il n'y a plus rien. Il y a les cadavres, les pieds qui sortent de la boue. Enfin. C'est vraiment des paysages absolument morbides. Mmh. Comment il parvient à décrire cela et à le rendre en même temps fascinant? Comment ça se fait que ça peut marcher? C'est la question que tu posais. Oui. Ben alors, pour comprendre ça, je crois que justement, il faut remonter, se dire, tiens, comment ça commence aussi? Par quoi ça naît? Je pense qu'un élément où là, je ne peux pas moi juste dire, bah non, ça ne me concerne pas, c'est juste un truc bizarre et morbide. Lui, par exemple, son point de départ, c'est... Et c'est un récit un peu typique, c'est qu'il dit, en fait, je sortais de l'école et je m'ennuyais terriblement. Hein, ouais, c'est aussi, tu vois, c'est aussi...
Il ne s'est pas ennuyé.
Voilà. Et même, il va plus loin, et il faut pas que je me lance dans trop de détails, parce que je sais que le temps avance, mais...
Mais c'est intéressant ce que tu dis, hein, je veux dire...
Oui, parce que c'est là...
C'est intéressant, il n'y a pas de problème.
C'est
On a envie d'écouter la suite, quoi.
Ou ce qui vient avant, en fait. Moi, je me suis intéressée à ce qui vient avant le moment de la Première Guerre mondiale. Il a écrit un bouquin où il raconte justement ce temps de l'école, qui raconte comme un temps de l'ennui. Et ça aussi, donc je disais, il y a des passions de la modernité, mais cette idée que la paix moderne, c'est le temps de l'ennui, c'est un truc, on pourrait dire, c'est une obsession justement de la modernité. C'est cette idée que notre temps de la paix, c'est un temps de l'ennui, que nos expériences ne sont pas... authentique, que voilà, un peu cette idée que notre vécu est sans cesse en crise. Donc Junger, il est complètement là-dedans. Et alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fuguer de l'école. Il va fuguer et il rejoint la Légion étrangère. Donc il fugue, il rejoint la France. Et sa grande idée, c'est de traverser les mers et d'arriver en Afrique et de là déserter la Légion pour rejoindre, pour aller dans le Congo,
ouais, ouais.
Mener son aventure dans les terres vierges du Congo. Et alors il raconte comment il fantasme devant des livres qui parlent du continent noir, etc. Donc évidemment tout un rêve complètement colonial. Et qui en même temps, et c'est vraiment indémêlable, une sorte de rêve d'aventure un peu adolescente. On voit bien qu'il est
romantique.
Oui, voilà, une sorte de romance de l'aventure. Et en même temps, il est en train de regarder la carte. Il nous dit qu'il regarde la carte du monde et qu'il cherche les espaces qui sont en blanc, quoi. Et ça, c'est toute une imagerie de la modernité, d'imaginer qu'il y a des espaces qui sont vierges, qui sont en blanc, qu'on peut capter. Et donc là, on voit tout de suite la violence. Et en même temps,
alors que normalement il y a des gens, il y a des peuplades qui vivent là, c'est ça que tu veux dire,
ça,
hein?
La terre, il y a jamais, il y a oui, pas oui, de terre vierge, oui, évidemment. Oui. Mais c'est une manière de se rapporter à un territoire justement en tant qu'il peut être conquis. Et là, on le voit à un niveau le plus, j'ai envie de dire, des fantasmes d'adolescence, d'aventure. Et je pense que ce rapport-là à l'aventure, à aussi ce qu'on peut nommer en disant, c'est une quête d'expérience. Mm-hmm. Voilà, il faut que ma vie soit vécue. Mm-hmm. Il faut que je vive des expériences pour que ma vie soit vécue. Il faut que j'aille voyager. C'est un truc qui prend des tournures très précises quand il s'agit de la guerre, mais qui est aussi beaucoup plus... qui a plein d'autres visages, quoi. C'est un truc qui façonne ce qu'on appellerait les sensibilités modernes. Et donc, on ne peut pas juste dire, oui, il faut être un fou de la violence comme Junger pour être pris dans ces passions-là. On voit qu'il est relié à des passions qui sont plus qui travaillent les sociétés modernes de manière plus large. Mmh. Et à partir de là, bon voilà, donc c'est l'ennui, puis bon, son aventure, sa fugue là, ça termine pas très bien. Il rentre Et là, c'est le déclenchement de la guerre, et c'est ce sentiment qui est justement d'une interruption du temps, quoi. Il y a une grande rupture, il y a quelque chose qui commence, on ne sait pas ce que ça peut advenir. La Première Guerre mondiale, ça, il y a vraiment ce sentiment-là de on ne sait pas ce qui est en train d'arriver, c'est une manière de faire la guerre qu'on ne connaît pas, et c'est en train de nous entraîner dans quelque chose dont on n'a pas encore idée. Et Junger, il est assez passionné par ce truc-là, et alors il faut suivre vraiment comment on arrive de là à effectivement cette passion pour les paysages de mort, etc.
Bah, de toute façon, il faut lire le livre, hein. Et il nous reste, pas beaucoup de temps. Peut-être après, on va démarrer. Puis je dirais, ça là, c'est fini, tant pis. Il faut. Mais on parle de la. Il y a plein de choses à dire sur ton bouquin. Enfin, c'est des moments. Franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé quand tu parles de la destruction, l'effacement, le silence, quelque chose qui se met en route comme ça avec la modernité aussi, de tout raser, tout couper, et puis on reconstruit du neuf, on oublie le passé. Enfin voilà, j'ai bien aimé ça. Mais il y a aussi le fascisme qui a été désiré. Ça aussi, c'est on aimerait bien envie de rentrer là-dedans. Mais moi, j'avais envie de terminer. Après, tu choisis, hein, de ce que je dis. On souhaite évidemment ne pas faire la guerre. On n'a pas envie de faire la guerre. Et pourtant, dans les luttes, dans les combats, tu vois, ceux qui font la guerre, ceux qui ont les armes, si tu n'as pas, toi, aussi des armes, avec cette idée, on va faire la guerre, tu as perdu. Tu vois, gros sujet aussi, quoi. Comment on fait dans ce monde où, en effet, le désir guerrier, il est là, quoi, dans les films, c'est presque... Dans les films, dans la politique, dans la propagande, tu vois. Enfin, on n'est pas prêt de sortir de... c'est pas que je le souhaite pas, hein. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu as envie de... Comment tu...
Sur cette question de... Il nous reste combien de temps?
Vraiment...
quelques minutes.
Ouais. Je vous invite à aller voir. Je vous invite à lire.
Quelques minutes. Effectivement, moi, je me dis volontiers anti-guerre, voire même pacifiste. C'est un mot dont j'ai pas peur. Et pourtant, bien entendu... être pacifiste, ça peut jamais être juste une posture générale, de refus général de la violence. Enfin, en tout cas, sous cette forme-là, j'y crois pas. Cette espèce de pacifisme moral qui ferait s'équivaloir, en fait, toute forme de guerre et toutes les raisons aussi d'être en guerre, ça, j'y crois pas. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens préfèrent le terme d'anti-impérialisme. Et je crois que ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que l'anti-impérialisme, c'est pas contre le fait que les peuples résistent et qu'ils résistent par des moyens armés. C'est contre les puissances impériales qui oppressent les peuples et qui sont évidemment armées de manière bien plus redoutable. Donc là, jusque-là, je pense que on peut sans doute être... ça me paraît assez évident à ce niveau-là que être anti-guerre, ça ne veut pas dire être contre les peuples qui résistent, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, et que ce soit dans plein d'endroits du monde. Là où j'ai l'impression qu'on est dans des nœuds compliqués, et c'est là qu'on ne va pas pouvoir trop creuser, mais peut-être juste pour ouvrir quand même, c'est... là, on est un peu pris au piège et coincé, c'est par rapport à... Ça s'est beaucoup posé dans la question du soutien aux Ukrainiens. La question d'un soutien armé des puissances européennes et occidentales aux Ukrainiens, qui est aussi une demande, hein, qui, depuis le début de la guerre, du gouvernement ukrainien. Et c'est là qu'on s'est retrouvé un peu coincé entre... en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, entre le besoin de pouvoir dire, bah oui, en fait, ils sont face à une guerre d'invasion et leur demande de soutien, elle est légitime. Et en même temps, l'État français, l'État américain, belge, etc., là, ce n'est pas les peuples qui résistent et qui s'arment. Ce sont des puissances qui ont elles-mêmes leur dynamique impériale, etc. Et donc... On est un peu coincé entre la volonté de soutenir et le fait qu'on n'a pas envie de nourrir la bête quelque part. On n'a pas envie de soutenir justement les puissances qui prétendent nous représenter et qui, elles, nous disent aujourd'hui qu'on doit se réarmer, se repréparer à la guerre. Donc on est aussi pris dans cette dynamique-là à laquelle on a besoin de résister. Et en même temps, comment on fait ça sans écraser les perspectives des Ukrainiens? Je pense que ça, c'est vraiment un nœud politique depuis 3 ans.
Ouais. On parle plus alors des enjeux géopolitiques, quoi. C'est ça, des guerres qui... Ouais.
Je pense que c'est là, parce que tu vois, c'est ce qu'on rétorque toujours. C'est oui, en fait, effectivement, qui ne se dit pas contre la guerre? Mais en fait, il suffit qu'elle soit là pour qu'on voit que c'est pas du tout si simple. Et donc, moi, je pense que être.
Oui, parce que de nouveau, on est loin de tout ça, tu vois. Mais demain, on est en guerre ici. Tu vois, ça nous réveillera aussi d'un coup, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les armes? Est-ce qu'on résiste? Est-ce que on se soumet?
Oui, mais là, j'aurais tendance, moi, plutôt à répondre à la situation dans laquelle on est au présent, c'est-à-dire non pas une situation dans laquelle nous serions attaqués, mais une situation dans laquelle on nous dit qu'on doit se reconstruire une culture militaire et se réarmer pour être plus puissant en cas de guerre future. Et moi, j'aurais tendance à répondre à ce stade-ci en disant, mais en fait, cette dynamique-là, c'est la dynamique qui rend de plus en plus concrète la perspective d'une guerre possible. Enfin, en fait, c'est ça la dynamique belliqueuse à laquelle il faut résister, je pense. Donc, je crois que là, c'est bien de revenir à notre temps présent plutôt que de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on ferait si... Parce que le qu'est-ce qu'on ferait si est aussi une manière de nous faire accepter, en fait, des dynamiques guerrières dans lesquelles on n'a peut-être pas envie d'être, justement.
Ouais. Je pense déjà, là, maintenant, après, voilà, on arrête parce qu'on va dépasser. Mais je veux dire, c'est comme s'il y avait un cran de violence qui montait de plus en plus, je veux dire, tu sais, avec l'extrême droite qui est là, aux portes, quoi. On a l'impression aussi que ça nous... Allez, il va falloir prendre position, quoi, tu vois, dans le tram, dans la vie de tous les jours, parce que ça va monter. Quand je parle de la guerre, c'est aussi comme ça. Bon, c'est peut-être pas très juste, hein, mais ça, la violence va monter d'un cran aussi, tu vois. Il va falloir prendre peut-être plus position, il va falloir mouiller sa chemise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je prends les armes pour aller tuer je sais pas qui. Tu vois, ça m'intéresse. C'est pas ça que je... Mais que... Plutôt viser la résistance, quoi. De pas... Tu vois, de pas se laisser, de pas jouer le jeu de cette violence qui augmente, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir et qu'il y a des nouvelles règles encore plus fortes, méchantes qui se mettent en place, il va falloir prendre position, tu vois. Je veux dire, avec les flics, tu vois, avec les... Enfin, voilà.
Oui, et je pense qu'il y a déjà amplement de quoi le faire déjà maintenant.
Bon. Déborah, merci. T'as envie de rajouter quelque chose pour la fin? C'est les désirs guerriers de la modernité, la couleur des idées. Aux éditions La couleur des idées.
Aux éditions du Seuil.
D'accord. Merci à toi. Hein.
Merci beaucoup. Merci à toi.